Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah, je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas. Bienvenue sur le 107 FM ou sur radiobartas.net. Nous sommes le lundi 23 mai, il est 8h30. Il se complaît sous les chaleurs extrêmes tel le lézard, sans doute parce qu'il sait garder son sang-froid. À la technique, Corto, salut.
Salut Ben, bien vu, belle intro. je suis flatté.
Inspiré ce matin, ça m'arrive de temps en temps. Allez, au programme de cette matinale, nous serons par téléphone avec Anne Montagard pour l'événement À l'affût, immersion sonore en forêt, qui est proposé par le collectif du Grand Chahut. Ce sera à Saint-Germain-de-Calberte, à Sainte-Croix-Vallée-Française ou encore à Saint-Martin-de-Lensuscle, jeudi, samedi, ce week-end, ou encore le week-end du 4 juin. On vous explique tout dans un instant. Alors, je devais aller ce samedi à l'Assemblée Générale des Petits Cailloux et faire un reportage. La radio en a décidé autrement. Voilà, on était un peu en panne samedi, sans doute la faute aux grosses chaleurs. Et les machines supportent pas toujours, en tout cas ce n'est que partie remise. Je vous propose donc de réécouter Guillaume qui est paysan du côté de la Solpérière à Vébron et qui fait de la philosophie permaculture. Ce sera tout à l'heure. Jimmy Cliff à la musique aujourd'hui et on y va pour l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Évidemment, je vais pas prendre position pour le gouvernement qui vient d'être nommé, puisqu'ils ont pris leur quartier ce week-end. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je vais quand même prendre une défense. Et oui, il n'aura fallu que quelques minutes aux haïsseurs de l'autre pour déverser leur bile. Sitôt Pap Ndiaye nommé au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'extrême droite française a rivalisé d'anathème pour le qualifier et le disqualifier. Je vais salir ce micro ce matin, pardonnez-moi, en disant pourtant des noms que je ne dis jamais, mais bon. Marine Le Pen, elle, l'a dépeint en, je cite, « indigéniste assumé avant que quelques minutes plus tard, son bras droit Jordan Bardella n'évoque qu'un militant racialiste et anti-flic, artisan futur de la dislocation de la nation. Le porte-parole du parti d'extrême droite Julien Odoul a préféré parler de militant immigrationniste. Éric Zemmour, lui, a prédit que le nouveau ministre allait déconstruire l'histoire de France. C'est quand même l'hôpital qui soude la charité. Le député Éric Ciotti, lui, a résumé le positionnement prétendu de Pap Ndiaye dans un tweet, tout en nuance, je le cite, « adepte de l'islamo-gauchisme et militant anti-flic », c'est terrifiant. Dans une classe politique si peu habituée à voir émerger au premier plan des figures issues de l'immigration post-coloniale, la nomination de l'historien est venue rappeler avec violence d'une gifle matinale cette réalité que le temps et l'avancement nous ont parfois fait oublier. Le racisme structurel profondément ancré d'une partie de la société française et de sa classe politique. Et ça, c'est affligeant. Allez, on écoute les chantres de la diversité, Lavillier, Bernard et Jimmy Cliff, Melody, Tempo, Harmonie, parce que ça fait du bien.
Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare. Ses riffs comme des fluides transperçaient le brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de négris planait sur la fumée en petites notes agiles. Ses textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes.
À l'affût, immersion sonore en forêt, c'est un événement proposé par le collectif du Grand Chahut. Ce sera à Saint-Germain-de-Calberte, à Sainte-Croix-Vallée-Française, à Saint-Martin-de-Lensusque, entre autres. Ça se passe le jeudi 26 mai, le samedi 28 mai et le week-end du 4 et 5 juin. Et pour en parler, nous sommes avec Anne Montagard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, on va en parler. Mais d'abord, la première question est assez simple. C'est quoi le collectif, le Grand Chahut ?
Alors, ben, Grand Chahut Collectif, plutôt dans l'autre sens.
Ah.
Et ben, c'est un collectif de musiciens qui est né il y a, en 2004, ça commence à faire, dans la vallée de la Drôme, et qui a des liens depuis, pas ses débuts, mais pas loin, avec, avec pas mal de gens autour de Saint-Martin-de-Lensusque, par le biais du temple, où à l'époque, l'association du Chahut était tenue par des gens qui accueillaient des musiciens, des artistes en résidence contre concert ou comme contre présentation, ce qui était l'occasion de faire des soirées, de l'animation culturelle sur le territoire. Voilà, donc Grand Chahut, on est aujourd'hui une quinzaine de musiciens, on est 11 sur ce projet-là. Et voilà, on explore un peu, on a pas mal exploré des formes de mise en musique, de mise en espace, de type de musique. C'est assez éclectique selon les affinités des uns et des autres. Et que dire ? Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui a une attention particulière sur le, au-delà du musical, le sonore. C'est des gens qui pratiquent pas mal les musiques improvisées et qui sont des musiques qui se développent dans l'instant, en fait, qui se composent là, maintenant, instantanément. Donc, ils n'ont pas écrites ou préconçues à l'avance, mais juste issues des ressentis de l'endroit, des gens qui sont là, du moment, de ce qui se passe entre les musiciens, etc. Voilà.
Alors, les événements que vous allez proposer à partir de la semaine prochaine, et qu'on va détailler d'ailleurs dans quelques instants, c'est né d'une création musicale qui a eu lieu il y a pile un an. C'est ça ? Alors, comment vous avez travaillé sur cette créa ? Un peu à l'impro, comme vous disiez ?
Non, quand même pas. Que de l'impro quand même.
Allez, expliquez-nous.
Mais en recherche, on va dire, on a travaillé par chez nous parce qu'on pouvait pas venir chez vous tout le temps. C'était un peu énergivore dans tous les sens du terme. Mais on a créé des échanges par le biais de cartes postales sonores. Et chez nous, on a travaillé sur des sites naturels autour de chez nous. Sur 2 jours, une fois par mois à peu près. Et on a eu l'occasion de venir en repérage en petite équipe. Alors déjà dans une réunion, enfin voilà, on est venu en petite équipe pour une réunion, puis pour un repérage en août avec tous les partenaires, pour rencontrer les partenaires. Après, en octobre de l'année dernière, toute l'équipe est venue pour découvrir le site qui avait été choisi, pour pouvoir avancer de manière plus concrète après quand on rentre chez nous. Et chez nous, on a travaillé plutôt des principes, des modes de jeu, comment on pouvait s'installer dans un environnement sonore qui est déjà présent, celui de la nature. Il y a déjà plein de sons, en fait, que ce soit le vent, les oiseaux. Et les reliefs donnent aussi des effets, des échos, mmh. des délais, des cuts. Des fois, justement, le son ne passe pas. Mmh. Ou des intimités. Ou... Voilà, on a travaillé tout ça chez nous. Et puis, on est revenu là, en avril, pour un autre temps encore de travail aussi pour par rapport aux journées du 26 et du 28 qui sont des journées d'atelier en fait à Saint-Germain-de-Calvert et à Sainte-Croix-Vallée-Française et voilà et puis là on va s'installer à partir de la semaine prochaine donc pour ces ateliers et puis la semaine qui suit du 30 je crois enfin en tout cas lundi mardi mercredi jeudi on est sur le site qui se situe entre Saint-Martin-de-Lensusque et Sainte-Croix-Vallée-Française pour 4-5 jours de résidence et puis les présentations vont avoir lieu voilà donc là ça va s'incarner ça va prendre forme quoi.
Et surtout les ateliers si j'ai bien compris en fait alors il y a 7 ateliers qui sont proposés hein, qu'on pourra un petit peu détailler juste après mais c'est quoi c'est la notion de partager un peu tout ce que vous avez vécu vu est-ce que aussi c'est pour faire prendre conscience à tout le monde de réécouter le monde qui nous entoure c'est ça l'objectif.
Alors, ouais, on pourrait dire que c'est deux axes qui se complètent, ouais. Mmh. On aurait aimé être plus présent et plus travailler, je pense, en tout cas en échange, et voilà, plus rencontrer les gens dans le coin, quoi. Mmh. Mais concrètement, ça ne s'est pas fait peut-être autant que ce qu'on l'aurait souhaité, et du coup, il y avait quoi qu'il en soit la volonté avec les foyers ruraux de pouvoir proposer quelque chose aux habitants. Mmh. Ou en tout cas, voilà, quelque chose qui se tisse avec certaines personnes. Donc, il y a ces cartes postales sonores avec un atelier son qui a eu lieu cette année à Sainte-Croix-Vallée-Française au foyer rural qui a tissé un petit peu des liens. Et là, c'était aussi, effectivement, questionner ces possibilités, quelles sont les différentes possibilités de s'exprimer en tant qu'humain dans un milieu qui existe en dehors de nous, quoi qu'il en soit, nous on arrive et puis on fait quelque chose, comment entrer en relation assez fine. Mm-hmm. Et c'est à la fois les compétences de chaque musicien qui sont mis là dans ces ateliers, à la fois aussi des recherches qu'on a pu faire nous et qui vont être finalement dans la création, qui sont proposées au moment des ateliers. Mmh. Et puis après, on verra, ça va se tisser. Si finalement il y a des gens qui ont envie de participer avec nous à cette création, voilà. C'est la porte n'est pas fermée quoi, en tout cas, mais comme on n'a encore rencontré personne, on ne sait pas comment ça va trop se passer. Mmh. Et les ateliers ont une amplitude. Il y a à la fois est-ce qu'on les détaillerait là maintenant?
Alors d'ailleurs, moi ce que j'ai adoré quand on voit la programmation, c'est que ça parle à tous les âges, puisque ça commence à 10h avec un atelier dès 6 mois, s'inspirer de l'écoute du tout petit. C'est quoi essayer de comprendre ce qu'entend un enfant tout petit?
Oui, alors c'est pas comprendre ce qu'il entend, mais plus observer sa capacité de perception, sa sensibilité qui est assez synesthésique dans le sens peu différencié dans les sens, c'est-à-dire les sensations et les émotions, ils les prennent de manière assez entière. Mmh. Et nous, après, en grandissant, on dissocie, il y a l'intellect qui est là, mais il y a aussi quelque chose de visuel ou quelque chose de plus auditif. On va distinguer beaucoup plus les choses. Et voilà, les petits sont vraiment là maintenant dans le moment présent, en perception immédiate. Mmh. Et c'est assez inspirant pour nous, ça nous pose aussi. Donc voilà, l'idée c'était... C'était de à la fois eux leur proposer un temps autour d'être baignés dans le son et potentiellement de la pratique musicale aussi, mmh. aux tout petits, mais aussi à travers ça, inviter les parents ou accompagnants, en tout cas adultes, à se positionner peut-être autrement dans l'écoute, une écoute sensible, ouais, mmh. Je pourrais dire comme ça.
Et l'après-midi, ce sera 5 ateliers qui vont soit s'enchaîner. Alors là, vous allez nous expliquer comment ça se passe, puisque pour les 6 et 12 ans, ça commence avec un atelier écoutez-voix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font l'atelier toute l'après-midi, ou alors qu'ils participent seulement à cet atelier pendant une heure ?
Alors, c'était plutôt... chaque atelier est imaginé pour l'après-midi.
Ah, ok.
Et c'était même une journée entière qu'on imaginait... Idéalement pour ceux qui ont envie de faire le voyage et qui ont la disponibilité pour la journée, ça serait carrément de démarrer avec nous. Donc il y a effectivement pour les parents et les tout petits cet atelier à 10h, mais à 10h il y a surtout toutes les personnes qui voudront faire des ateliers de l'après-midi, qui sont invitées à venir à un massage sonore, une pratique de massage sonore pour ouvrir l'écoute. Et puis ensuite un temps de partage où on mangerait ensemble.
Ouais.
Et puis l'après-midi, on cible plutôt, enfin les personnes ne circulent pas forcément entre chaque atelier, mais plutôt s'investissent dans le temps sur un atelier qui peut faire 2-3 heures. Donc en effet, il y a écoutez-voix. Selon les ateliers, ça sera plus ou moins dense, parce que l'idée à la fin, ça serait, ce qu'on a projeté et qu'on avait envie de partager, c'était qu'on se retrouve tous dans l'espace dans lequel on a fait des ateliers qui sont donc en extérieur, hein, qui seront... À Saint-Germain-de-Calbert, ça sera, j'ai plus le nom précis du lieu, mais sur les terrasses, après la salle polyvalente, propose son lieu là, ouais. assez vaste. Et du coup, à la fin, l'idée, ça serait qu'on joue tous ensemble avec la pratique qu'on a eue, soit instrumentale, soit vocale, soit sifflé, soit avec notre instrument qu'on aura fabriqué sur le moment, qu'on joue dans l'espace tous ensemble. Donc en fait, chacun se concentre dans un atelier qui lui parle le plus. Alors donc effectivement, écoutez-voix, il y a l'utri sauvage, il y a El Silbo qui est un langage développé, un langage sifflé sur la base des voyelles, des harmoniques des voyelles, improvisation instrumentale, et il y a aussi un atelier qui est plutôt de prise de son, retraitement du son, qui lui se fera avec un appui dans le lieu, à la salle polyvalente de Saint-Martin, de Saint-Germain-de-Calbert et à Sainte-Croix, ça sera dans l'école. Où là il y aura des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, et puis potentiellement après la possibilité de le diffuser quand on jouerait tous ensemble. Donc voilà, la proposition elle est plutôt de passer la journée avec nous. Après on sait bien que c'est pas forcément possible pour tout le monde. Il est aussi possible de venir qu'au massage sonore ou qu'à un des ateliers, alors qu'au grand chahut sylvestre, au chahut sylvestre comme on l'a nommé pour le concert, enfin pour la... Le rassemblement final, si on n'a pas joué avant, bah, c'est peut-être un peu... Parce qu'il y a plus adapté peut-être, en fait j'en sais rien, ça dépend des gens bien sûr. Mais voilà, c'est l'idée des ateliers.
En tout cas...
Donc, c'est le même déroulé, que ce soit sur Saint-Germain, que ce soit sur Sainte-Croix, à la différence près que pour l'atelier écoutez-voix, les enfants seront conviés à venir sur Sainte-Croix et les adultes sur Saint-Germain. Et voilà, sinon c'est la même proposition pour les deux territoires.
En tout cas, auditeurs, auditrices, vous inquiétez pas. Comme il se passe énormément de choses, je mets évidemment la programmation sur notre site dans un instant. Et alors, vous l'avez abordé, hein, le week-end du 4 et 5 juin. D'ailleurs, on les a pas cités, on va les citer. C'est en partenariat avec les Scènes Croisées de Lozère, le Foyer Rural Le Chalut, le Foyer Rural Vallée Française, l'association Chahut et Musique en Cévennes qu'on connaît bien sur cette antenne. Là, donc, ce sera la randonnée immersive le matin et une marche au crépuscule le soir. C'est donc votre spectacle là, qui est proposé cette fois-ci ?
Voilà, là du coup c'est la forme spectaculaire, sans être tout à fait spectaculaire dans l'idée où on ne sera pas des musiciens sur scène et un public à sa place de public, mais un public actif parce que dans la marche, actif parce que dans l'écoute, un peu à l'affût des sonorités qui seraient peut-être pas celles qu'on attendrait dans le lieu. Donc produite par nous. Et en effet, le samedi matin, le dimanche matin, on part à 10h du parking de la Lec et on randonne sur le chemin du Cerf et on remonte à la crête jusqu'à à peu près 13h. Et donc tout cet espace-là est habité de notre présence et de la présence de ce qu'il y a, quoi qu'il en soit, et on essaie de cohabiter au mieux. Ensuite, l'idée, c'était pareil, samedi soir, dimanche soir, une marche qui soit plus accessible, parce qu'en fait sur ce territoire-là, il est assez compliqué de proposer quelque chose pour quelqu'un qui n'aurait pas une aisance à la marche. En tout cas, le parcours du matin est plutôt dédié à des niveaux intermédiaires, bon marcheur, enfin à l'aise en tout cas. Mmh. Et c'est pour une trentaine de personnes, parce que le parcours est plus exigu. Ouais, il faut passer par des endroits. Le public est
moins accessible.
C'est un petit public le matin et un plus grand public l'après-midi, le soir en fin de journée et le soir. L'idée c'était d'être sur l'atmosphère du crépuscule. Et là pareil, on part du parking de la Lec, mais on emprunte plutôt le chemin forestier pendant un moment. Mmh. Pour quelque chose qui est sonorisé, on arriverait à un point où, à la fin, quand le soleil est tombé, on terminera par une collation et un retour à la nuit, tous ensemble. Fait quand même une marche de 2h30 en tout, aller-retour, quoi.
Et dans des paysages absolument à couper le souffle, c'est sûr. Est-ce que pour votre collectif aujourd'hui, les choses, entre guillemets, sont-elles revenues à la normale dans le sens où ça a été compliqué hein, pour la culture pendant 2 ans ? La question, plus simplement, c'est comment ça se passe pour vous aujourd'hui ?
Eh oui, on peut dire que cette création, on pourrait dire... Je vais dire merci Covid, mais on avait de l'espace pour travailler et se poser des questions là-dessus. Donc finalement, on l'a fait puisqu'on ne pouvait pas travailler rémunéré à ce moment-là. Mm-hmm. Pour l'instant, ça va. On pourrait dire pour le collectif, ça reprend. Ça reprend plutôt bien. Cette création, elle redonne du jus aussi au collectif. Mm-hmm. Donc, Inch'Allah, hein, que ça continue comme ça. c'était à traverser cette période. Pour l'instant, on fait. Et on a appris, je pense, dans ces périodes-là, à l'adaptabilité et à faire avec ce qu'il y a là maintenant et pas trop se projeter.
C'est sûr. En tout cas, auditeurs, auditrices, à l'affût, immersion sonore en forêt. C'est un événement proposé par le Grand Chahut Collectif. Ils ont un super site bien fait, hein, c'est grandchahut.org. Je mets évidemment toutes les infos et toute la programmation de ce que vous proposez à Saint-Germain-de-Calberte, à Sainte-Croix-Vallée-Française, à Saint-Martin-de-Lensusque dans un instant sur notre site. Merci beaucoup, Anne Montagard.
Ouais, grand merci, Len.
Et à très très bientôt dans notre belle région.
À bientôt, j'espère. Ouais.
Avec plaisir. Mais bon, malheureusement pour nous, c'est le festival Dolt ce week-end-là. Mais peut-être que le 4 et 5 juin, nous serons là. C'est fort possible. À bientôt en tout cas.
Avec plaisir.
Plaisir partagé.
À bientôt.
Au revoir. On se retrouve dans un instant pour parler philosophie, permaculture. On écoute d'abord Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. De retour avec Guillaume en plateau. Alors Guillaume, t'as une ferme Aveyron, perma et élevage depuis 2014. T'étais où avant et tu faisais quoi?
Avant, j'étais davantage à la ville et je suivais un parcours pour faire une carrière d'enseignant-chercheur à l'université. Voilà, donc j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait un doctorat et après j'ai commencé à enseigner à l'université sur des postes non titulaires. Avant de faire la bascule, voilà, de décider de quitter un peu ce monde-là, la ville, le béton de l'université, et pour aller vivre un peu plus près de la nature et puis enseigner directement dans la nature.
Ouais, du coup, changer de vie, ça pourrait en faire rêver plus d'un. Et justement, quand tu dis enseigner dans la nature, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu partages des savoir-faire, c'est ça?
Non, j'en suis encore à l'étape projet sur ça. Disons que depuis que je suis installé, on pourrait dire que j'ai fait mes années de recherche, un peu solitaire, avec mes brebis dans la montagne, pendant 4-5 ans, que peut-être j'ai commencé à développer un petit savoir sur la nature que je commence à être prêt à vouloir transmettre, et que je commence aussi à avoir une infrastructure qui va me permettre d'accueillir du public. Et donc normalement, dès cet été, on devait commencer à ouvrir pour faire des stages d'immersion nature. On a été un peu retardé avec la crise sanitaire. Du coup, ça sera l'été prochain.
Quel beau projet. Alors justement, est-ce que c'est simple de s'installer en tant que paysan, si tant est que le mot te convienne?
Ah, le mot me convient très bien, paysan, qui est beaucoup plus large que éleveur. Parce qu'effectivement, on est dans un pays où on ne peut pas se permettre d'avoir uniquement une activité agricole. Et on est amené à faire plein de choses, comme les anciens paysans, les anciens habitants du pays. Donc oui, j'ai des brebis, mais je fais aussi le jardin, je fais du bois, j'apprends à construire des bâtiments, voilà. Donc j'aime beaucoup le terme de paysan. Est-ce que c'est dur de s'installer? Je pense que ça dépend vraiment des opportunités de chacun. Une grande difficulté, bien sûr, sur le territoire, c'est l'accès au foncier. Sur ça, moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que c'est par l'intermédiaire de la famille que j'ai pu avoir accès à du foncier et m'installer. Donc, j'ai passé facilement, je veux dire, grâce à l'aide d'autres, l'obstacle premier. Après, quand on n'est pas issu du monde agricole, il faut tout apprendre sur place, par contre. Et les apprentissages sont très durs. C'est-à-dire que la nature est une maîtresse exceptionnellement sage, mais plutôt vieille pédagogie, vous voyez, plutôt dur. Quoi. Donc dès qu'on foire un truc, elle nous met une bonne claque et c'est comme ça qu'on apprend. Alors c'est très efficace pour les apprentissages, mais ça a un côté un peu violent. Quoi. Donc voilà, les premières années, conduire un troupeau, dresser un chien de berger, tout ça c'est des expériences assez dures, surtout quand voilà, on veut développer une agriculture qui est en phase avec la nature. Eh ben, on a quand même plus une posture d'humilité ou de soumission vis-à-vis des forces de la nature. Et bah, c'est pas évident.
Et en juin dernier, elle nous l'a bien rappelé aussi, avec toutes les inondations qu'on
avec
a eues.
Avec le petit épisode, oui.
Ah, elle force à l'humilité, cette nature.
Ah ouais, exactement. Et j'aime beaucoup ce terme, parce que je trouve que c'est vraiment prendre le contre-pied de l'attitude moderne qui veut placer l'homme tout en haut de la hiérarchie du vivant et... Je le considère un peu comme un dieu qui doit maîtriser et contrôler l'ensemble de la planète. Et puis, c'est un terme que je trouve très juste parce que humilité, c'est la même racine que humain et c'est la même racine que humus. Et ça montre bien cette tripartite là, qu'on vient de la terre et puis c'est dans ce contact et dans ce travail avec la terre qu'on apprend à être humble, à être à notre juste place vis-à-vis de l'univers. Quoi.
Alors justement, tu parlais du foncier pour toi, et effectivement, et la chance sourit aux audacieux, hein, c'est pas la question, mais est-ce que tu as eu des aides ou des financements participatifs, parce que le foncier c'est pas tout, est-ce que la chambre d'agriculture, le département ou autre file des coups de main, comment ça se passe?
Alors j'ai eu plein de soutien, là, je dois dire que surtout avec les années, on voit un peu tous les ans toutes les personnes qui nous ont accompagnés, toutes les institutions, donc effectivement on a fait d'abord un financement participatif. On a profité un peu de ces nouveaux modes de financement alternatifs et qui sont très bien quand on est porteur d'un projet pas très commun. Et ça a très bien fonctionné. Et bon, à la fois, il y a une possibilité de financement. C'est jamais des très grandes sommes, mais ça aide au moment de s'installer. Et puis surtout, ça donne beaucoup d'énergie parce qu'il y a plein de gens qui nous soutiennent, plein de gens qui disent qu'ils sont à fond sur notre projet. Et donc ça donne beaucoup de courage. Et puis après, quand on est au travail et qu'on traverse des moments de galère, bah, on pense aussi à eux, à tous les gens qui ont cru en nous. Et puis ça donne de la force, ça aussi. Donc ça, c'était une super expérience. Et je continue à garder contact avec des gens qui nous ont aidés il y a 5 ans. On les tient en courant régulièrement. Il y en a qui viennent nous visiter. Voilà, ça fait un bon réseau derrière de gens qui nous suivent, quoi. Et après, nous, on a décidé effectivement de s'installer avec les aides à l'installation, donc les aides de l'État. Et alors là, par contre, c'est moins rigolo. Bon, déjà, il faut avoir la capacité professionnelle agricole, donc ça veut dire que j'ai dû refaire un diplôme. Bon, j'en avais quelques-uns, mais voilà, il a fallu refaire celui-ci, c'était pas le plus rigolo. Et puis après, surtout, il faut rentrer dans plein de cases, plein de dossiers administratifs. Alors voilà, quand on a fait un peu des études, tout ça, faire des dossiers, on sait faire, mais c'est pas la partie la plus agréable du métier, quoi.
Mais elle est nécessaire, quand même.
Mais elle est nécessaire, et au fond, voilà, quand on n'a pas de capital, quand on n'a pas fait un peu fortune avant, et qu'on débarque sans rien, on a beau avoir accès au foncier, tout le reste, une structure, ça se bâtit, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc on est quand même bien content que l'État il vienne nous aider derrière. Et puis, même si on peut contester bien plein de choses sur les aides à l'installation, il reste que même des projets assez alternatifs comme ça, il y a moyen qu'ils soient aidés par l'État. Et ça, c'est quand même une bonne chose sur le territoire. Il y a plein de jeunes qui s'installent avec des modèles agricoles assez alternatifs, bon, et qui sont quand même soutenus par la Chambre d'agriculture, par la DDT. On n'est clairement pas prioritaire, mais on n'est pas non plus complètement écarté du chemin.
Voir le positif, c'est quand même aussi super important, tu m'étonnes. Alors, philosophie permaculture, bon, on en parle beaucoup, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas la permaculture, c'est quoi et comment ça marche ?
La permaculture, c'est quoi ? Rien que le mot, déjà, permaculture, ça veut dire permanente agriculture. C'est une contraction en anglais. Donc ça veut dire qu'on va chercher à développer une agriculture qui soit résiliente dans le temps, où, disons, on saccage pas les ressources d'un territoire, mais on cherche un modèle qui soit pérenne, quoi, tout simplement. Et la stratégie qu'on essaie de suivre pour ça, c'est tout simplement qu'on essaie d'imiter la nature. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une posture où on pense que nous, les humains, on a tout le savoir qui va bien et avec notre volonté, on va transformer le monde autour de nous pour le rendre comme on aimerait qu'il soit, eh bien, on a la posture un peu inverse, un peu humble, de dire « bon, bah, la nature, ça fonctionne très bien sans les hommes, normalement. La forêt, ça fonctionne très bien tout seul. Les animaux sauvages, ils arrivent très bien à vivre tout seuls. » Donc, c'est qu'il y a une sorte d'intelligence de la nature qui est déjà là, que c'est à nous de découvrir et ensuite d'imiter. C'est-à-dire que nous, derrière, en tant que paysans, on va essayer de créer un agro-écosystème qui imite un écosystème naturel. Donc ça commence par beaucoup d'observations du monde de la nature, et ensuite une tentative de recréer, juste à l'échelle de notre ferme, de notre petite île ou îlot, des mécanismes, des schémas qui ont lieu d'eux-mêmes dans la nature.
Et est-ce que en faisant de la perma, la sécheresse, les inondations dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est moins grave entre guillemets, ou est-ce que ça peut faire les mêmes dégâts ?
Forcément, c'est atténué. Si vous regardez, la nature, elle souffre du réchauffement climatique ou des événements climatiques, mais elle est capable de les encaisser. Une grande forêt, bon, ça encaisse des chocs. Ça a une résilience qui est beaucoup plus importante que les systèmes artificialisés que nous, on construit. Parce que c'est des systèmes qui sont basés sur la diversité, sur la diversité des êtres vivants, et qui fait qu'il y en a, s'il y en a un qui souffre, en gros, les autres sont capables d'assurer le pendant. Donc il y a une saison où il fait trop chaud, bon, il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Il y a une saison où, au contraire, il va faire trop froid, il y a d'autres choses qui vont marcher. Donc vous voyez, vous êtes jamais dans la perfection sur l'ensemble de vos facteurs, mais par contre, il y en a toujours un qui arrive à en réussir, voilà. Et donc on arrive à passer un petit peu les épreuves. Et donc ça, c'est effectivement le truc le plus important aujourd'hui, quoi. C'est d'arriver à construire des systèmes naturels, imiter des systèmes naturels pour atteindre une certaine résilience, une certaine capacité à encaisser les chocs, parce que ben, on sait très bien que là, ce qu'on est en train de prendre, c'est les petits prémices, quoi, et puis ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc si on veut continuer à pouvoir manger correctement demain, il faut un petit peu anticiper. Et on a bien vu sur des trucs comme le corona ou autre, il y a des événements dramatiques qui peuvent arriver très violemment comme ça. Le problème, c'est qu'il faut bien prendre en compte que l'agriculture, ça ne change pas du jour au lendemain. Si vous n'avez pas anticipé à 5 ans ou à 10 ans que vous aurez besoin de nourrir votre population plus tard, même dans des situations difficiles, c'est pas au printemps que vous allez décider, vous allez tout changer pour qu'à l'été vous ayez à manger, quoi. Donc là, il y a une inertie et qui fait qu'on est obligé quand même de prendre vraiment à l'avance un peu les devants.
Sur un territoire escarpé comme le nôtre, est-ce que c'est plus compliqué qu'ailleurs ?
C'est à la fois plus compliqué et ça offre aussi plus d'opportunités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi en permaculture, que j'aime beaucoup, c'est un état d'esprit, d'essayer de transformer tout ce qui est contrainte en ressources. Donc effectivement, il y a des contraintes naturelles ici qui sont très importantes, les pentes, la présence de beaucoup de végétation, de beaucoup de forêts, le très peu de sol, etc. Mais à l'inverse, il faut apprendre à de ces contraintes les transformer en avantages. Donc... quelque part, quand vous construisez des circuits d'eau ou vous construisez votre terrain, le fait que vous ayez des dénivelés, je vais prendre des exemples plus concrets. Par exemple, moi j'ai 300 mètres de dénivelé à peu près sur mon site pour mes pâturages. Eh bien, l'herbe, elle n'arrive pas au même moment partout. Ouais, y a un étage de végétation et c'est super intéressant de jouer avec ces étages de végétation. Tout au début du printemps, je vais descendre le plus bas possible parce qu'avec l'arrivée de la chaleur, c'est là-bas que ça va pousser. Et petit à petit, je vais monter. Et quand ça sera brûlé en bas, là-haut, ça ne sera pas encore brûlé. Les arbres, c'est pareil, c'est un milieu très forestier. Alors, il y a plein de gens qui disent « bon, mais la forêt, en fait, c'est des terres qui ne sont pas agricoles, quoi, ça n'a aucune valeur agricole ». En fait, c'est complètement faux. Au Moyen-Âge, la plupart des animaux, ils vivaient uniquement dans les forêts, les animaux d'élevage, je veux dire, on les nourrissait dans les forêts. C'est-à-dire que la forêt, elle est vraiment capable de nourrir. Et bien, l'été, comme ça, quand il fait une chaleur folle et que c'est de la sécheresse, les animaux, ils sont mieux où ? Ils sont dans la forêt. Dans la forêt, c'est encore vert. Dans la forêt, il y a encore de l'eau. Là. Voilà, donc ce qui peut vous paraître comme « Ah, ben c'est super pauvre parce qu'il n'y a que de la forêt », ben non, en fait, si vous l'utilisez au bon moment, au contraire, ça va vous apporter les ressources qu'il faut.
Alors, on parle d'élevage. Tu as des brebis, alors je ne connaissais pas. Rayol, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est une race locale, vraiment des Cévennes, Cévennes Cosgaring, donc avec un domaine de répartition assez petit. Et c'est vraiment une race rustique, une race du terroir qui a été sélectionnée par les générations de paysans, qui est vraiment adaptée justement aux pentes, qui est adaptée à la végétation, qui est adaptée au climat, qui était menacée de disparition dans les années 70. Il ne restait plus que 300 individus. Parce qu'à cette époque, on se disait elle produit pas assez de viande, elle grossit pas assez vite. Ah, vite, on va aller chercher les races sophistiquées que l'INRA elle a trafiquées dans ses laboratoires, comme ça on va avoir de la viande plus vite, etc. Et en fait, on se rend compte que ça génère des lignées et des populations, ces races manipulées, qui sont beaucoup moins résilientes, justement, qui ont besoin de beaucoup plus de soins, à qui il faut apporter à manger, il faut qu'elles soient bien dorlotées dans la bergerie, il faut leur donner des antibiotiques pour qu'elles résistent aux maladies, etc. Et donc, dans les années 70, il y a des vieux bergers qui se sont dit « c'est quand même vraiment dommage que cette race qui est le fruit de la sélection des anciens, elle disparaisse. Donc on va essayer de redévelopper la population. » Et aujourd'hui, on a grâce à leur travail, on a une trentaine d'éleveurs. Il y a à peu près 3000 brebis maintenant. Et on redécouvre, à la faveur de cette agriculture un peu plus naturelle, toutes les qualités de ces races-là. Des races qui sont capables de vivre dehors la plupart du temps de l'année, elles vont en bergerie juste un ou deux mois, des animaux qui sont capables de se nourrir tout seuls dans leur environnement, on n'est pas obligé d'acheter à l'extérieur de quoi leur nourrir, et qui résistent aux maladies, hein, pas besoin d'aller chez la vétérinaire toutes les semaines pour lui mettre des produits dans le corps, etc. Et voilà, donc là, on profite un peu du travail des anciens et on essaie de poursuivre ça.
Et tu parlais, vous êtes une trentaine d'éleveurs, il y a un partage de connaissances entre vous ?
Oui, c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé aussi en m'installant. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire des études agricoles. J'ai rien appris vraiment pendant ces études agricoles.
C'était juste un diplôme qui te permettait.
Voilà. Mais c'est dommage, c'est mais fou, c'est vrai que ce qu'on s'enseigne aujourd'hui dans les écoles d'agriculture, c'est pas du tout l'agriculture que j'avais envie de faire. C'est pas du tout l'agriculture qui respecte l'animal. C'est pas du tout l'agriculture naturelle qui essaie de s'appuyer au maximum sur les forces de la nature. Pas du tout. Par contre, quand on va chercher dans les savoir-faire traditionnels, là, on va retrouver un peu une agriculture du bon sens, on va retrouver du savoir-faire traditionnel. Et des savoir-faire qui se sont maintenus, bien sûr, qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas dans les bibliothèques, qui ne sont pas scientifiques. Ce n'est pas des hommes en blouse blanche qui le transmettent. C'est peut-être le vieux bonhomme avec sa grande barbe en haut de la montagne. Mais lui, il en a à te raconter, quoi. Et c'était super d'avoir accès à ces gens-là, parce que quand toi, tu débarques de la ville et que tu n'es pas issu du milieu, ils pourraient te regarder vachement de haut. Mais pas du tout. Et donc, c'est des gens qui m'ont vraiment accompagné, qui m'ont appris plein de petits trucs, surtout dans, dans l'observation de la nature et dans l'intelligence de la nature et dans l'intelligence de l'animal, quoi. Encore une fois, des choses, tu t'appuies pas sur la biologie, tu t'appuies pas sur la chimie, tu t'appuies juste sur le regard et toi, ton empathie et ta sensibilité et juste ton intelligence de dire, bah voilà, quelque part, c'est aussi mon semblable, cet animal, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ressentirais? Et t'arrives vraiment à comprendre de quoi il a besoin, comment il vit, etc. Et voilà, ces vieux savoir-faire de berger, ils continuent à être transmis et c'est un trésor, ouais. C'est pour ça que, juste pour terminer, la permaculture, il y en a qui disent que c'est de la nouvelle agriculture. Il y a des choses très intéressantes dans la permaculture, mais il faut voir qu'on retrouve aussi des savoir-faire anciens. Tu vois, on ne réinvente pas la lune, quoi. Et il y a des savoir-faire traditionnels de paysans depuis des millénaires qui sont très justes, et c'est juste qu'on les retrouve.
Donc, fromage ou autre, c'est exactement la production?
Viande.
Et viande, d'accord.
Viande et laine.
D'accord, et laine.
Et laine, voilà, ouais.
Et justement, t'es en circuit court, donc tu vends depuis ta ferme, tu fais les marchés, comment ça se passe?
Alors, même là, ce qu'on essaie de développer, on fait table d'hôte. Donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment d'aller jusqu'à l'assiette. Alors, pour aller dans le détail, nous, on fait une viande un peu particulière. On fait pas de l'agneau, parce que ça nous pose un souci de tuer des petites bêtes de 4-5 mois. Et donc, on refait ce que les anciens y faisaient, c'est-à-dire qu'on laisse grandir les bêtes jusqu'à 2-3 ans. Et juste, on les castre et on les mange quand ils ont 2-3 ans. En fait, on fait l'équivalent pour le mouton de ce qu'on fait pour le bœuf. C'est-à-dire que quand tu manges un bœuf, c'est pas un taureau, c'est pas une vache, c'est pas un veau. C'est un mâle qu'on a castré, qu'on a laissé grandir. Et on le mange et parce qu'on considère que c'est la meilleure viande, c'est la viande d'un mâle qui a été castré, qu'on a laissé vraiment grandir. Bah, tu fais la même chose avec le mouton, tu as une viande bien rouge, bien persillée. Mais comme les gens disent « Oh, mais le mouton, ça doit être fort, ça doit pas être très bon, déjà de l'agneau, ça a du goût, etc. » Bon, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le cuisine et on le sert à l'assiette. Ça, la personne, elle n'a pas le choix, elle mange, et puis quand elle l'a goûté, là, elle reconnaît que c'est très très bon, quoi. Voilà.
Et sinon, le vin... Tu me fais saliver.
Pardon ?
Tu me fais saliver, j'ai faim.
Et voilà, et sinon, on travaille un peu avec les restaurateurs parce que eux, du coup, ils sont un peu plus audacieux et ils aiment travailler des produits un peu différents. Et donc, c'est avec eux au début qu'on a un peu montré ce qu'on faisait et que ça leur a plu, quoi.
On a vu pendant le confinement, cette période très étonnante, les gens consommaient de plus en plus local, c'est plutôt une bonne chose. Il y a même tout un circuit de solidarité qui s'est mis en place, que du positif là-dedans aussi.
Non, pas que du positif. Non, moi j'étais assez choqué, alors j'ai pas été particulièrement impacté, mais je sais que j'ai été assez choqué parce que j'ai des collègues paysans qui ont beaucoup donné pendant cette période, justement parce que d'un coup, il y a eu une demande très forte de gens qui se sont rendus compte que si les circuits de distribution industrielle ils disparaissent, comment on va faire pour manger? Vite, 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 allons voir le paysan du coin. Très bien. Ben, le paysan du coin, pendant que les gens étaient confinés ou faisaient du télétravail, il allait travailler 10 ou 12 heures par jour, trois fois plus peut-être que d'habitude, pour aller nourrir la population. Et il a mis beaucoup de cœur parce qu'il a retrouvé un peu sa vocation de nourrir les gens. Le problème, c'est que quand il y a eu un déconfinement, il y a quand même une bonne partie des gens, surtout dans la plaine là, des grandes villes, qui sont vite retournés au supermarché. Donc le maraîcher là, qui a mis tout plein son jardin en production là, pour nourrir sa population et qui a vu plein de gens arriver et qui leur a distribué à fond des paniers, il s'est retrouvé l'été avec son jardin en surproduction parce qu'il n'y avait plus personne pour venir le voir. Donc moi je pense qu'il y a quand même des paysans qui se sont pas mal sacrifiés pendant ce truc-là et à mon avis ils ne le feront pas deux fois, à bon entendeur.
D'où l'importance de consommer local. D'ailleurs, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'installer comme ça?
Qui veut s'installer paysan?
Ouais.
Il faut avoir la foi, c'est tout. Une fois que tu as la foi, tu peux affronter tous les problèmes. Ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question économique ou d'argent, c'est une question de sens, quoi. Si pour toi, c'est ça qui donne sens à la vie, alors tu surmonteras tous les obstacles sans souci.
C'est beau. Est-ce que tu es prêt pour l'interview détente?
Vas-y.
Allez, jingle, on y va. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Ouais, faut parler français. Alors, quel conseil de livre tu donnerais à nos auditeurs, auditrices?
Ah, je l'ai pas préparé celle-là. Tu me l'avais dit pourtant, il fallait que j'y réfléchisse. Mais voilà, j'ai trop... Eh bien, je vais dire mon livre fétiche, hein, mon livre préféré, c'est Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche.
De Nietzsche. Ouais, non, c'est un très très bon choix. Hein. Ouais, c'est vrai. Un film?
Un film, je ne saurais pas si c'est mon film préféré, mais comme ça, le film qui peut-être m'a pas mal poussé pendant quand j'étais jeune et que je me posais des questions, c'était Into the Wild. Donc un peu cette histoire du gars qui va le plus loin dans la vie sauvage pour aller vraiment à la rencontre avec le monde. Et oui, il m'a beaucoup frappé, un bel exemple, parce que c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au don de soi, au sacrifice, pour se remettre en contact avec la nature.
Excellent choix, Into the Wild. Et une chanson ou un artiste?
Bon, une chanson, j'ai peut-être paraître vieux jeu, mais ma chanson préférée, ça reste le Requiem de Mozart.
Ah, non, c'est pas vieux jeu. Mozart, ce génie. Merci Guillaume.
Eh bien, merci beaucoup, à vous, c'était un plaisir.
Philosophie, permaculture, c'est à la Solperrière à Vébron. On peut vous contacter assez facilement.
Hein. Et oui, vous pouvez passer au hameau, sinon il y a un site internet qui s'appelle www.philosophiepermaculture.com.
Je le mets en lien sur notre site dans un instant. Merci et bonne continuation à toi.
Merci, vous aussi.
Et c'est la fin de cette matinale. Oui, merci Corto.
Avec plaisir, avec plaisir.
On se retrouve évidemment mercredi avec celui qui fait le plus de matinales que son ombre, Fabien. Fabien Moutet, directeur artistique des Détours du Monde. Pourquoi? Parce que le festival approche à grands pas, avec notamment Delgré. On parle de tout ça avec lui mercredi. Et voilà pour cette matinale, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Profitez-en bien, espérons que ça pète un peu, ça n'a pas fait de mal. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao. Ah oui, on se quitte avec Jimmy Cliff de Harder They Come. À mercredi, ciao. Oppressors
maintenant.